Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Alexandre Marlier.
Rencontre avec Patrick Duché, il revient sur le Rôdeur, le fan club français de la série Le Prisonnier, sa création et la recette qui lui permet de perdurer à presque 30 ans.
Patrick Duché, je suis président de l'association Le Rôdeur, qui est une association de fans de la série britannique Le Prisonnier. Je suis président de cette association depuis 1998. Avant, j'avais été maquettiste, rédacteur, reporter de notre bulletin de fans qui s'appelle lui aussi Le Rôdeur, du nom de la grosse boule blanche que l'on voit dans la série. Et voilà en quelques mots mon portrait. Et puis accessoirement, auteur avec Jean-Michel Philibert d'un livre intitulé Le Prisonnier, une énigme télévisuelle aux éditions Iris. Pourquoi un fan club du Prisonnier? Pourquoi un fan club de Johnny Hallyday? Pourquoi un fan club de l'AS Saint-Etienne en foot? Pourquoi je ne sais pas, ou du moins je sais pourquoi moi j'ai fait des articles, parce que j'ai l'histoire de ce type m'interpellait. Je me suis dit, bon sang, mais quand on lève le nez du guidon, qu'on regarde autour de soi, on est quelque part tous un petit peu manipulés. On nous dit pour qui voter, on nous dit que telle élection est déjà jouée, on nous dit plein de choses. Et Le Prisonnier, comme je le disais, m'a aidé moi personnellement à ne plus être dupe. Et l'histoire de ce héros qui cherche à savoir qui tire les ficelles m'a profondément interpellé. Le Rôdeur a été fondé donc à la fin des années 80 par Jean-Michel Philibert. Il représente actuellement à peu près une centaine de personnes. Dans les années d'or, je dirais, les années, on va dire début des années 90, on a compté près de 500 membres, 500 lecteurs. Et puis, bon, il y a un certain étiolement parce que, les nouvelles technologies ont fait que les cassettes VHS ont été diffusées en masse. Elles ont d'ailleurs fait un tabac chez Polygram, puis les DVD, etc. Internet a fait en sorte que ce qui était à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est fin des années 80, début des années 90, ce qui était introuvable est devenu facilement trouvable en trois clics. Donc les gens n'ont, à mon avis, c'est mon interprétation, ont eu moins le besoin de faire cette démarche d'en savoir plus en adhérant. Adhérer à une association, quelle qu'elle soit, c'est un geste, j'allais dire un geste militant, c'est donner quelques euros pour soutenir un bulletin. Et en fait, on est... je le dis sans pudeur, on est l'un des derniers fanzines papier en France à perdurer sous cette forme. Ce qui n'est pas sans problème. Les frais d'impression sont de plus en plus importants, les frais de poste, etc. Mais jusque-là, on a tenu à faire perdurer un bulletin papier envers et contre tout. Il n'est pas dit que ça change dans les années qui viennent, mais jusque-là, on a publié 58 numéros. Et nous sommes le plus vieux fanzine européen. On a une certaine longévité en dépit des aléas personnels, professionnels des uns et des autres. C'est peut-être le fait qu'on a été présent pour participer, si je parle des DVD, on a participé à la réalisation du coffret DVD avec TF1 Vidéo. On a fourni diverses informations, photos. On a participé à la sortie au DVD en kiosque aussi. En apportant, ma foi, des éléments sortis de nos archives, des photos, des archives, des magazines, etc. Et pour écrire le livre donc paru chez Iris, le Prisonnier d'une énigme télévisuelle, moi j'ai stocké à peu près 3 000 à 4 000 articles, 3 000 à 4 000 magazines depuis une quinzaine d'années, ce qui constitue ce que j'appelle le CDP, le Centre Documentaire du Prisonnier, qui est une bibliothèque d'archives autour de la série. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a une telle somme d'archives qu'on est prêt à fournir des informations, à participer à des projets, on va dire, plus grand public, et on a su se montrer présent, notamment sur les DVD auxquels je faisais référence.
Difficile en tout cas d'établir un portrait robot du fan type du Prisonnier. Il existe en effet autant de visages que de fans.
On s'est aperçu au travers de nos rencontres annuelles que il n'y avait pas vraiment un portrait robot du fan du prisonnier, à savoir le fan du prisonnier n'a pas n'est pas un cadre plutôt dans la fonction publique, etc. Non, pas du tout. Les fans du prisonnier a de 20 à 60, 65 ans. Je dirais il est représenté dans toutes les couches sociales. Il y a des fonctionnaires, il y a des professions libérales, il y a des gens qui travaillent dans le privé, dans le public. C'est vraiment très très diversifié et autant de points de vue qui s'expriment au travers de notre forum sur le site www.leprisonnier.net ou au travers des colonnes de notre bulletin, le Rodeur. C'est vraiment très très diversifié et ça donne une richesse aux, je dirais, aux échanges par rapport aux au grand thème que développe la série. Avant, ça faisait, comment dire, on avait presque honte, hein, oui, une série, ça vaut pas le cinéma. Alors, les amateurs de séries étaient snobés par les amateurs de cinéma. Et puis, petit à petit, grâce à des séries, entre guillemets, de qualité, comme Twin Peaks, X-Files ou autres, dans lesquelles il y avait une réelle, de réels efforts de filmiques, photographiques, bon, on s'est aperçu que en 45 minutes, 60 minutes, on pouvait faire quelque chose qui tiendrait la comparaison au cinéma. Bon, il y a certains épisodes de X-Files où il y a une photographie absolument magnifique, teinte de bleu, teinte de vert, etc. Très très travaillée. Et c'est ça qui fait que certains publics ont été conquis. C'était clair que les grandes chaînes hertziennes, en l'occurrence, ne pouvaient pas rester insensibles. Mais ça a été très long. Il y a une multitude de fans, il y a une multitude de comportements. Je pense que on passe par des phases diverses d'interprétation pour ce qui est du prisonnier, mais je pense que c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être les mêmes comportements pour d'autres séries, mais bref. Pour le prisonnier, on commence à s'attacher, je dirais, aux grandes questions philosophiques. L'individualisme, l'individu dans la société, la réaction par rapport à, on va dire, une prison libérale, etc. Puis après, on revisionne les épisodes, et puis on s'aperçoit que tel épisode qu'on avait moyennement apprécié, finalement distille un message qui nous interpelle, etc. Certains fans peuvent être très exaltés et vivre leur passion de façon très intense. Je connais notamment le cas d'un Anglais qui, chez lui, s'habille comme Patrick McGowan, a la même coupe de cheveux, il se trouve qu'il est roux comme l'était à l'époque McGowan. Donc ça, bon, dans toute passion, il y a des personnes très exaltées. Ceci dit, nous, depuis plus de 15 ans à l'association, on vit notre passion de façon plus mesurée en écrivant des articles, en se retrouvant pour les rencontres. Mais effectivement, ça change le regard qu'on pose sur le monde qui nous entoure, indubitablement pour ce qui concerne le prisonnier. Et on trouve des répercussions, je dirais même actuelles, en 67, quand la série était tournée, on voyait des téléphones sans fil, ce qui était extraordinaire. Maintenant, c'est totalement banal. On voyait des gens payer des produits avec des cartes de crédit. Bon, ben, maintenant, c'est le cas. Donc, c'est une série qui, à l'époque, était en avance sur son temps et qui, maintenant, je dirais, est de son temps. Et voilà, à mon sens, comment elle... moi, personnellement, en tous les cas, elle m'a permis de, je dirais, poser mon regard sur la société qui m'entoure.
40 ans après sa création, Le Prisonnier reste une œuvre visionnaire. C'est probablement du côté de l'intemporalité qu'il faut chercher les raisons du succès de la série.
Ce qui fait la singularité de la série, c'est que, comme je l'ai dit, à son époque, elle était visionnaire, en avance sur son temps. Elle posait à l'époque des questions que, je dirais, chaque citoyen peut se poser maintenant. La notion d'être tous fichés. La notion d'être filmé. En Angleterre, je crois que la polémique actuelle, c'est le fait que le Royaume-Uni est le pays européen où il y a le plus de caméras, où les gens sont le plus filmés et surveillés en permanence. C'est vraiment, j'allais dire, le diable qui se mord la queue, mais au pays de Orwell, c'est totalement extraordinaire. Là où les scénaristes ont été géniaux, c'est qu'ils n'ont surtout pas voulu brandir la menace communiste, etc. Dans un épisode, on entend même le numéro 2, je veux parler au maquin, dire que, enfin, laisser entendre que les deux blocs sont en collusion pour gérer ce village, pour en faire une espèce de terrain d'expérimentation. Et à aucun moment dans la série, il n'y a de référence à l'Est, l'Ouest, bon bref, ça, non, pas du tout. Ça n'est pas comme dans Destination Danger, par exemple, la série donc qui a rendu célèbre McGowan, où là, il y avait des méchants identifiables qui pouvaient être sud-américains, russes, etc. Non, non. Dans Le Prisonnier, il n'y a aucune référence politique. Et je dirais même, c'est ce qui fait son côté universel, le fait que ça pourrait être n'importe où. Et regardons pas très loin de nous, Guantanamo, ma foi, c'est le village puissance 10, quelque part. Il y a une façon un peu dandy qui consiste à dire, on ne comprend rien, donc c'est génial. C'est comme le 2001 Kubrick, on ne comprend rien, donc c'est forcément génial. Non, c'est idiot. C'est idiot. Ça peut se comprendre. Mais il faut surtout voir tout ce qui a amené à l'épisode 17. Qu'est-ce qu'on voit ? On a le combat d'un homme contre un univers carcéral, et le dernier épisode, c'est une espèce de délivrance. Une espèce de grand n'importe quoi, diraient certains. Moi, au contraire, je pense que c'est une réflexion très consciente sur comment un individu peut, à sa façon, se libérer de certaines chaînes. Il est très aisé de plaquer une explication, mais d'ailleurs, on a eu... foultitude de thèses qui nous ont été transmises, etc., dans lesquelles des étudiants, des gens qui font des mémoires de maîtrise, etc., disent de façon péremptoire « McGowan a voulu dire que... » Trois petits points de suspension. Or, on était en contact avec l'un des scénaristes de l'épisode numéro 6, qui s'appelle Le Général, et Louis Greifer, qui était très ami avec McGowan, lui avait demandé... est-ce que t'as conscience de faire de l'art, de faire de la philosophie dans ces épisodes? Et il a dit, non, absolument pas. Il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Ça n'était pas quelque chose de voulu politiquement, si vous voulez. Ça m'irrite beaucoup parfois quand je lis ce que je disais. McGowan a voulu dire que, alors qu'en fait, il avait vraiment, mais aucune conscience qu'il allait faire quelque chose qui resterait pour la postérité, je dirais.
Patrick Duché revient sur ce qui fait une grande série selon lui, mais qui dit grande série ne dit pas nécessairement grande adaptation filmique. Or, on parle d'une adaptation du Prisonnier sur grand écran depuis bien longtemps.
Une bonne série est une bonne série parce qu'il y a un bon scénario, parce qu'il y a des bons acteurs, parce qu'il y a une bonne façon de tourner, parce que, qu'est-ce que je pourrais vous dire, parce qu'il y a une intrigue soutenue, un suspense soutenu, parce que il y a des gimmicks, parce que, je sais pas, la liste pourrait être très longue. Les gens de ma génération qui sont nés dans les années 60 ont une inclinaison naturelle à regarder ce qu'ils ont vu étant enfants. Les séries de l'âge d'or. Je parlais d'Amicalement Vôtre, Les Envahisseurs, Mystère de l'Ouest, etc. Mais ça serait resté un petit peu passéiste. Ça, c'est, certains journalistes prennent un malin plaisir de cantonner les fans à des passions futiles, et on se fait fort de leur dire, mais attendez, on est sain de corps et d'esprit, on a une vie à côté des séries, en dépit de certains exaltés. Il y a eu des bonnes séries dans les années 70, il y en a eu de bonnes dans les années 80, 90 et 2000. Simplement, ce qui fait qu'une série est bonne, c'est la patine du temps, c'est le fait que 5 ans après, 10 ans après, on regarde un épisode de X-Files avec le même plaisir qu'au moment où on le découvrait. Mais rien ne vaut le premier visionnage. Le premier visionnage, c'est, passez-moi l'expression, mais c'est un peu comme un premier amour, ça ne revient jamais. Le premier épisode du Prisonnier, j'oublierai jamais le moment où j'ai vu Doux Personnalité. Et c'est vrai qu'on peut jamais revivre deux fois la même chose. Le Prisonnier, on parle d'une version cinéma depuis 15 ans. C'est le serpent de mer, c'est le monstre de Loch Ness, c'est l'éléphant blanc. Après que McGowan ait tourné avec Mel Gibson dans Braveheart, il a pondu un scénario qu'il a vendu à Hollywood. C'est en 97, on est en 2007. Bon, pour ce qui est de la pression des fans, les fans attendent de retrouver certains codes, de mon point de vue. Exemple, ça serait impensable de faire un film du Prisonnier sans la grosse boule blanche, sans le rôdeur. Ça serait impensable de faire le Prisonnier sans le village. Pour ce qui est du Prisonnier, il y a, de par l'expérience que j'ai de mes discussions, c'est très très partagé. Il y a autant de gens, notamment je dirais la vieille garde est très dubitative parce qu'on va toucher au mythe, on va toucher au culte. Par contre, le public plus jeune se dit pourquoi pas faire une version moderne de ça, montrer une autre prison dorée. J'ai pas d'avis tranché, très honnêtement. Ça me ferait plaisir de voir la série présenté à un grand public. Ça me ferait très peur que les concepts soient dénaturés, mais ça ferait reparler de la série et ça serait déjà très bien.
Le fan club n'est cependant pas une organisation puriste. Ses membres apprécient les travestissements de codes intelligents. Un auteur d'une novélisation du prisonnier a d'ailleurs créé des rôdeurs de différentes couleurs qui intervenaient en cas d'alerte différente. Le fan club lui-même s'est amusé à jouer avec les codes dans un projet à mi-chemin entre la BD, l'expérience graphique et le texte. Elle s'intitule The Final Project. Plus d'infos sur le site internet www.leprisonnier.net.
Les podcasts d'AFDS.tv. Aux frontières des séries.